On est à peu près 40-50 ce matin. Ça vous donne un petit avant-goût de comment ça va se passer dans le ciel. On était sauvés pour célébrer la grâce de notre Dieu. C'est ce qu'on a fait ce matin. On s'est approché de lui, on l'a loué, on l'a glorifié. Puis le Seigneur est à présent pour venir chercher sa louange. Parce qu'il veut. Il veut être loué, il veut être célébré parce qu'on n'a pas affaire à n'importe qui. On a affaire au Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Gloire à Dieu. C'est un peu là-dessus, à bord de ça, que je vais vous parler ce matin. La gloire de Dieu. Je vais vous présenter Dieu d'une manière différente de ce que le monde le perçoit, parce qu'il ne faut pas se cacher. Les gens dans ce monde se sont fait un Dieu à leur propre image, selon leur pensée. Mais le Dieu de la Bible, c'est pas le Dieu qui est véhiculé dans la pensée des gens de ce siècle. C'est le Dieu qui a été révélé à travers Jésus dans sa parole. C'est ce Dieu-là qu'on va apprendre à connaître ce matin, afin de voir sa grandeur. Parce qu'il est pas, c'est pas le bon Dieu ou le petit Dieu qui est à quelque part, là, qu'on ignore. C'est le Dieu Tout-Puissant. On va mettre cette réunion-là dans ses mains. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus qu'on s'approche devant toi ce matin. On a le cœur ouvert et réceptif à recevoir ce que tu as à nous communiquer dans ta pensée. Je te demande, Seigneur, de parler à nos cœurs, de graver tes paroles dans nos cœurs, de faire une profonde impression dans notre cœur, qu'on sorte ici, qu'on soit plus les mêmes, qu'on ait une image telle que t'es, Seigneur, révélée dans ta parole à propos de ta grandeur et de ta gloire. Puis merci de ce que tu vas faire ce matin dans le cœur de chacun, dans le nom de Jésus. Je vais essayer de vous présenter le Dieu de la Bible tel qu'il est présenté ici, sauf que, faut l'admettre, on parle dans les mots de tous les jours, dans les mots des humains. Puis les mots des humains sont pas assez grands pour décrire la grandeur puis la gloire de notre Dieu. Dieu, il est au-delà de ce que vous avez pu vous imaginer jusqu'à aujourd'hui. On va voir des passages dans la parole qui démontrent sa grandeur et sa puissance. Puis ça va juste comme éveiller un peu notre esprit à essayer de le percevoir, de tâter en se l'imaginant. Mais Dieu est encore infiniment au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Après avoir entendu ce message-là, c'est sûr que vous ne sortirez pas d'ici sans avoir changé votre pensée face à Dieu. On ne peut pas rester indifférent quand on est en prise de conscience réelle de la grandeur de Dieu. Dans notre monde moderne, dans notre monde nord-américain, les gens sont rendus bien égoïstes. Ils sont individuels, chacun fait sa petite affaire. Les gens sont tournés sur eux-mêmes, ils ont de la misère, là, ça s'en vient de plus en plus pire, ils ont de la misère à avoir du temps à consacrer à leur famille. Encore moins à pouvoir se consacrer pour leur patrie. Puis, si on regarde encore plus loin, encore moins à l'idée de consacrer leur vie à un Dieu. Aujourd'hui, les gens marchent, vivent et laissent vivre, puis on fait notre petite affaire. On bouche un petit peu notre coin dans notre pensée qu'il y a un Dieu, qu'on peut admettre qu'il y a un Dieu, mais tellement petit et sans importance qu'on s'en occupe même pas, puis ça change rien dans notre courant de la vie. Puis on continue à vivre tout croche, c'est pas grave, ce Dieu-là, s'il y en a un, en fin de compte, il va tout pardonner. Mais à quelque part, il est important qu'on prenne conscience que Dieu est là, beaucoup plus que juste la petite idée qu'on s'est faite, puis qu'il est présent auprès de chacun de vous à chaque moment de votre vie. Ouais, vous allez me dire, ouais, mais parler de donner notre vie à un Dieu, parler d'un Dieu, vivre pour un Dieu, ouais, mais quel Dieu? Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Il y en a. Si on fera le tour là, de la ville de Châteauguay pour voir quelle est la pensée des gens face à Dieu, on aura une panoplie de dieux différents expliqués par un et par l'autre. Chacun aura dit, ben moi, mon Dieu, je le vouais comme ça, puis l'autre, son Dieu, le vouait comme ça. Pourtant, Dieu, il s'est pas révélé de manière différente. Il y a une seule parole dans laquelle on prend conscience que Dieu est là, puis qu'on sait qu'il est le créateur de toutes choses, et ainsi de suite. Puis c'est dans la Bible. Sauf que les gens, il y en a qui disent, ben ouais, mais ça, je tasse ça un peu la Bible, puis moi, J'aimerais mieux avoir mon Dieu personnalisé à moi tout seul, puis faire mon affaire avec lui comme que je vais lui donner de la place telle que moi je pense d'y en donner, pas plus. Savez-vous que le Dieu qui est présenté dans la Bible, c'est un grand Dieu? C'est un Dieu qui est éternel, c'est un Dieu qui est partout à la fois, puis c'est un Dieu qui est tout-puissant. Dans Colossiens 1:16, je vais lire plusieurs versets, je ne sais pas si vous voulez, je vais tous vous les lire, mais s'il y en a qui sont rapides, vous allez les chercher. Colossiens 1:16, ça nous dit, « Car en lui, on parle de Dieu, là, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. » Ce verset-là nous démontre comment ce que Dieu... Dieu, il est tout ce que je viens de vous dire. Premièrement, il est éternel, parce que ça dit, il était avant toute chose, qui est tout puissant, parce que ça dit que c'est toute chose subsiste en lui. Tout ce qu'on voit du monde visible et du monde invisible sont créés à l'intérieur de ce Dieu-là. Il était là avant, il a créé toute chose, puis toute chose subsiste parce qu'il maintient toute chose dans sa main. Il continue à faire tourner et à faire exister cette création et la faire tourner pour que... Vous savez, comme moi, la planète tourne, tout bouge, mais on n'est pas conscient de tout ce qui se passe dans l'univers, mais Dieu maintient tout ça dans sa main. Puis ça nous dit aussi que c'est lui qui a tout créé. Ça nous démontre sa grandeur, sa puissance. Comment voir, Dieu, quand on dit Dieu est grand, c'est bien plus que juste Dieu est grand. Dieu, il est grand! Au-delà de ce que l'humain peut imaginer, on est témoin, on est conscient de la création terrestre, mais laissez-moi vous dire, je vais vous expliquer un peu. Il dit, c'est lui qui a créé les choses invisibles. Je vais vous parler un peu des choses invisibles pour vous donner une image de ce qui se passe dans le monde invisible. Vous devez savoir que présentement, pendant qu'on est les humains vivent sur la Terre, il y a un monde invisible qui est là, comme un monde parallèle où ce que Dieu... est, et ce que Dieu a créé avant la création terrestre. Puis cette vie-là, il y a des gens qui sont en train de vivre présentement, dans des personnes, des individus, des êtres créés qui sont là présentement en train de vivre une histoire sans fin, parce que la fin, il n'y aura jamais de fin. Dieu, il a créé de quoi qui va durer en permanence et pour l'éternité. Mais c'est d'une beauté puis d'une originalité qu'on a de la misère à percevoir tellement que c'est grandiose. Dieu a créé un immense royaume où ce qui pouvait y vivre des milliards d'êtres surnaturels, extrêmement puissants. Là, on parle des séraphins, des chérubins, des archanges, des anges, d'une grandeur et d'une beauté au-delà de notre imagination. Ils sont en train de le servir, ils sont en train de le glorifier. Dans cette histoire-là, où ce qu'ils sont présentement, là, ils vivent quelque chose présentement, il y a des choses qui se passent dans le monde invisible. Puis ces êtres-là sont là, créés par Dieu, en train de le servir. Quand on regarde un film, je ne sais pas, vous avez déjà sûrement, vous avez vu des films où on voit un roi, on voit ses sujets autour, on voit ses serviteurs et ses servantes, on voit des soldats qui montent sa garde, on voit un peu son armée. Souvent, là, voir... qu'est-ce qui se passe autour de ce roi-là, ça donne une idée de ce royaume-là, de la grandeur ou de la puissance ou de la force de ce royaume-là. Souvent, on a vu des films qui étaient pauvres, c'était à peine s'il y avait à peu près une trentaine de figurants qui nous montraient l'histoire de ce royaume-là. Souvent, ou pas souvent, quelquefois, on a vu des films qui avaient un aspect un peu plus grandiose quand tu vois l'armée qui avait peut-être 2000, 5000 personnes qui sont figurants dans ce territoire-là, puis là, sont en train de se battre en guerre, ça a l'air une grosse armée, ou encore plus que ça, comme les films Le Seigneur des Anneaux, je pensais à ce film-là, mais c'est celui-là que je voulais mentionner, où ce que tu vois une multitude, il y a peut-être des milliers, des milliers, des millions de personnes qui sont en train d'être des acteurs de ce royaume-là. Puis voir ça, ça donne une idée de la grandeur de ce royaume-là. Mais dans la parole de Dieu, ça nous donne aussi des révélations comme des visions, des images de ce qui se passe dans le monde invisible, puis que ça nous donne de s'imaginer la grandeur du royaume invisible de Dieu. Dans Daniel 7:10, ça nous dit « Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, ça veut dire 1 million de personnes à son service, et 10 000 millions qui se tenaient dans sa présence. » Ça, on parle d'anges. 1 million d'anges qui est en train de le servir, en train de travailler à son service, dans son temple, auprès de lui. Ils ont tous des jobs à faire. Il y en a 1 million à son service. Puis il y en a 10 milliards qui se tiennent dans sa présence. Ça, c'est une vision que Daniel a vue. Dans ce temps-là, quand Daniel a vu ça, il ne les a pas comptés. Mais ça lui donne une idée quand même. Lui, quand il a vu ça, mais c'est au-delà. Imaginez, il y a plus d'anges que d'humains sur la terre présentement. Des fois, on s'inquiète, oui, mais y a-tu un ange? Dans la Bible, ça nous dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent puis les arrache en danger. Des fois, on a de la misère à s'imaginer. Y a-tu un ange? Y en reste-tu un quelque part, un ange qui va être à côté de moi pour me protéger, moi, personnellement? Puis chacun de vous, oui. Puis il y en a même plus qu'un à côté de chacun de vous. Les anges sont là présentement en train de faire un service auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Ils travaillent en train de les aider, de les protéger, de leur communiquer des choses que Dieu leur envoie. Ils sont là en train de travailler. Mais il y en a des millions à son service devant son trône et des milliards qui se tiennent dans sa présence. Ça vous rassure-tu un petit peu de voir comment est-ce que Dieu, il n'y a pas un petit royaume à peu près? Quand on parle du royaume céleste invisible, je parle juste du monde invisible. La Bible, elle nous parle, elle nous donne des descriptions à des moments donnés, jusqu'à des anges qui sont apparus auprès des humains. Puis quel impact que ça avait, un seul ange qui apparaissait auprès d'un humain. Dans Matthieu 28, 2 à 4, ça nous parle, après la résurrection. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, il vint rouler la pierre, puis il s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, puis son vêtement blanc comme la neige. Les gardes, qui sont les soldats romains, qui étaient les grands conquérants de cette époque-là, qui avaient conquis la terre habitée dans cette époque-là, les gardes qui étaient là auprès du tombeau, tremblèrent de peur. Puis ils devinrent comme morts. Un seul ange qui fait juste apparaître, lumineux comme l'éclair. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans une journée de pluie, qu'un éclair tombe pas loin de vous. Comment est-ce que ça l'éclaire d'un coup sec? Puis il y a le bruit qui va avec, mais l'éclair comme tel, c'est lumineux, ça éclaire tout, même si c'était en noirceur totale. La lumière que ça fait, ça va éclairer. Mais un seul ange, quand il est arrivé, il éclairait comme l'éclair. Puis les soldats, qui sont des hommes armés, avec tout leur équipement, puis tout ce qu'il fallait pour contrer une attaque de tous les disciples de Jésus qui essaieraient de venir rouler la pierre, un seul ange qui est apparu, tous ces gars-là ont tombé la face contre terre, comme morts. Puis des fois, ça va plus loin que ça dans les effets secondaires. Mais juste pour vous parler de la grandeur et de la puissance de Dieu, un seul ange qui donne cet effet-là devant des soldats, comment est-ce qu'il y en a des milliards d'anges qui se tiennent dans sa présence? Jésus, quand avant de se faire prendre puis se faire amener, il dit « Ne crois-tu pas que je pourrais invoquer mon Père qui m'envoyerait 12 légions d'anges? » Il aurait pu être délivré. Ça aurait été facile comme ça. Parce qu'un seul aurait été capable de faire la job. Dieu, là, juste vous montrer comment est-ce qu'il ne fait pas les choses à peu près dans son royaume. Nous, là, quand on a écouté l'orchestre ce matin qui joue de la musique, ça donne un petit effet d'entendre la musique, puis 50-60 personnes qui chantent en même temps. Il y a des églises aux États-Unis, il y a 200-300 personnes dans la chorale en avant, à part des musiciens. Puis ça chante, puis il y a 10 000 personnes dans l'assemblée qui sont en train de louer le Seigneur. Ça donne toute une impression. Mais devant Dieu, devant lui, présentement, il s'est fait une petite chorale pour célébrer sa gloire, de plusieurs millions d'anges qui chantent régulièrement et qui vont chanter la victoire de Dieu. On voit ça dans Hébreux 12, 22. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades, puis ça, les myriades, ça représente des milliards, des millions de personnes qui forment le cœur des anges. Il y a d'autres passages dans les Écritures, dans l'Apocalypse, qu'on voit que quand ces anges-là sont en train de chanter, ça fait le bruit comme une grande vague d'eau, comme de grandes eaux, puis ça fait le bruit comme des tonnerres, tellement que c'est puissant comme son qui sort de là. Puis tout ça, c'est dans le but de célébrer la gloire de notre Dieu. Ça vous démontre un peu que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Ce Dieu-là, il s'est révélé dans la Bible à un autre endroit, au prophète Isaïe, dans une vision qui démontre sa grandeur et sa puissance. Mais ça démontre aussi, quand on lit ça, la puissance qui était ou qui sortait de certains êtres qui sont auprès de Dieu, puis qui loue le Seigneur continuellement autour de lui. Dans Isaïe 6, au chapitre 1, ça nous parle, « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. » Là, c'est une vision du Seigneur. Ça nous dit, « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, il y avait chacun six ailes, deux qui se couvraient la face, deux qui se couvraient les pieds, et deux qui se servaient pour voler. » Ils criaient, ces séraphins-là qui volaient au-dessus du trône de Dieu, ils criaient l'un à l'autre, puis ils disaient, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes, on parle des portes de la ville, là, ils étaient ébranlés dans leur fondement par la voix qui retentissait, puis la maison fut remplie de fumée. Les portes ébranlées dans leur fondement, ça veut dire le cadrage de porte, là on parle d'une porte en bois, déjà là, essayez de crier assez fort pour faire ébranler le cadrage de porte que là. Ça ne fera même pas une simple petite vibration dessus. Là on parle des portes montées sur de la pierre, les portes du temple, les portes où ce que ça dit la maison fut remplie de fumée, c'est le temple de Jérusalem, où c'était tout en pierre, recouvert d'or, et ainsi de suite. Sur le moment du cri de ces anges, de ces séraphins-là, qui sont des anges très puissants, juste le fait de crier, ça faisait branler le seuil des portes, que les portes en shakaient par la puissance de la force de ce bruit-là. Puis ça, là, ces anges-là crient au-dessus de Dieu, « Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant, puis la terre est remplie de sa gloire. » Ils font juste se crier ça un à l'autre pour élever Dieu dans sa grandeur et dans sa puissance. Puis c'est assez pour faire ébranler le roc, le sol, puis que les portes soient quasiment en train de tomber à terre. Ça donne un aperçu des effets spéciaux que Dieu a créés. Dieu, il ne va pas à moitié. Il fait des effets spéciaux dans la vie. Mais en parlant, là, on regarde ceux-là, puis ça donne un effet de crainte quand on voit ça. On tombe à terre. Si on verrait une vision de ça, on tomberait à terre. Direct là, on serait tellement saisi de peur. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. On fait juste le lire, puis même encore, on a de la misère à se faire une image réelle. Mais c'est grandiose et c'est puissant. Pendant un temps inconnu, Dieu y tirait sa gloire de ces anges-là. On ne sait pas depuis combien de temps avant la création de la terre, combien de temps avant que ces anges-là ont été créés, ça ne nous le dit pas. Mais pendant un temps inconnu, ces anges-là servaient Dieu jour et nuit à le glorifier, à le louer, à chanter sa gloire. Puis Dieu a dit, tiens, je vais créer une nouvelle création. Je vais mettre des créatures là-dessus, beaucoup plus faibles, beaucoup plus petites, beaucoup inférieures à mes anges, afin qu'ils ne se glorifient pas trop. Là. Puis, il va falloir qu'ils s'approchent de moi sans me voir. Il va falloir qu'il s'approche de moi par la foi. Puis je vais tirer ma gloire du fait qu'il ne me voit pas puis qu'il marche pour moi. C'est ce que Dieu a décidé. Parce qu'en réalité, il y a juste Adam et Ève qui ont vu Dieu réellement dans le jardin d'Éden. Après ça, quand ils ont été rejetés, il y a certaines personnes qui ont vu des apparitions, des visions, des songes, mais la majorité de tous les humains sur la terre n'ont pas vu Dieu. Puis Dieu créa le monde visible, le monde que nous voyons ici, là, depuis notre naissance. On était placés dans cette création, puis on a comme à marcher à l'aveuglette en tâtonnant dans l'histoire, sans comprendre d'où ce qu'on vient puis où ce qu'on s'en va, sauf qu'on a à trouver pourquoi qu'on est là. Il y en a qui s'en foutent, ils font leur vie comme si rien n'était, puis ils vivent, ils profitent de tout ce qui passe devant eux autres. Il y en a d'autres que, ils sont comme concernés par l'idée, « Hey, suis-tu le fruit du hasard? C'est une erreur de l'évolution que je sois ici et me retrouve ici aujourd'hui, puis après ça, je vais mourir puis c'est fini? » La Bible, elle nous dit que même dans cette création ici, là, le monde visible, même si on ne voit pas Dieu, ça nous démontre la gloire de Dieu. Ça nous démontre la grandeur de Dieu. Ça nous démontre la puissance de Dieu. Juste le fait qu'on soit témoin, assis sur une chaise, qu'on commence à regarder tout ce qui nous entoure. Romains 1:20, ça nous dit, « En effet, les perfections invisibles de Dieu » Ça, c'est des perfections, là, que Dieu est parfait, on le sait, mais qui sont invisibles, ça ne se voit pas à l'œil. Il dit, comme sa puissance éternelle et sa divinité, ça se voit comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. On peut-tu s'imaginer la grandeur de ce Dieu-là quand on considère que le monde visible, la terre, premièrement nous autres, mais qu'on est sur une terre, puis cette Terre-là est dans notre système solaire, ce système solaire-là est dans une galaxie, puis il y en a, à notre œil, ça nous semble qu'il y en a une infinité de galaxies. Je vous ramène au verset que j'ai lu tantôt. « Car en lui, en Dieu, tout a été créé, les visibles et les invisibles. Le monde visible qu'on voit présentement, c'est créé à l'intérieur de Dieu. Même si à notre œil, ça nous semble infini, l'univers. » Dans sa grandeur, dans son immensité, Dieu est encore plus grand que tout ça, parce que tout est créé en lui, et c'est par sa puissance que tout subsiste, que tout est en mouvement, et que tout est là, maintenu en existence. Que ce soit dans l'infiniment grandeur de l'univers, de la création, que ce soit dans l'infiniment petit aussi, quand on parle des molécules, des atomes, des neutrons, des protons, que ce sont les plus petites particules qui forment la matière. Dieu a créé autant ces petites-là, puis a maintenu toutes choses en forme et en existence, autant qu'il en a maintenu les plus grandes. Ça se voit à l'œil, la grandeur, la puissance de Dieu. Comment est-ce qu'il peut être grand? Comment est-ce qu'il peut être immense et éternel, si on considère le temps que ça aurait pu durer. Imaginez-vous les plus grands et les plus beaux paysages que vous avez déjà vus. Les montagnes, la mer, les rivières, les forêts, le ciel, où il y en a qui trippent sur l'espace, puis les photos de l'espace, puis les planètes, puis ainsi de suite, où il y en a qui trippent sur les profondeurs de la mer, avec tous les détails que Dieu a créés, que ce soit des petits poissons de toutes sortes de couleurs ou des oursins ou toutes les ce qui pousse en végétation ou en forme de vie, que ce soit poisson, que ce soit oiseau, animal ou insecte, ou même les diversités d'humains. Dieu a créé toutes choses avec son originalité. Il a créé une diversité incroyable d'êtres vivants qui se meut sur la terre. Ça nous démontre comment est-ce que Dieu il est ingénieux, comment est-ce que Dieu il a de l'imagination. Moi, j'ai resté surpris quand j'ai vu Adam. Dieu a amené toutes les espèces animales auprès d'Adam, puis Adam a donné un nom à chacun d'eux. Moi, demandez-moi pas de faire ça, j'aurais pas été capable, j'ai pas l'imagination assez forte pour ça. Ça a l'air assez grandiose déjà de donner un nom à chaque forme animale qui existe sur la terre, mais imaginez-vous, Dieu, c'est lui qui les a toutes créées. puis qui continuent à vivre, qui ont un système de reproduction, comme ils ont un système de guérison. Tout est pensé par Dieu, tout a sa nécessité, et tout, il n'y a rien qui est le fruit du hasard, tout est en son contrôle. Dieu ne s'est pas arrêté juste au fait « je vais créer la matière, puis je vais y laisser aller ». Dieu est en contrôle de l'existence depuis le début de l'existence de cette vie humaine-là sur la terre. Il est en contrôle de la vie humaine, puis il y a un plan, puis il y a des projets pour toute cette humanité-là. Il n'y a rien qui a échappé à Dieu. Dieu voyait toute l'histoire de l'humanité avant même qu'elle existe. Dieu savait la fin de l'histoire de l'humanité avant son commencement. Il n'avait même pas créé rien encore qui savait déjà qu'il y aurait les humains tomber dans le péché. Il avait déjà prévu, avant la fondation du monde, d'envoyer son Fils mourir pour pardonner les péchés de son humanité. Dieu, tout le long de l'histoire, il a marché aux côtés de gens qui s'avançaient auprès de lui, des gens qui marchaient par la foi. Dieu marchait avec ces gens-là, puis Dieu s'est révélé à travers ces gens-là aux autres personnes qui étaient autour d'eux. Puis Dieu a manifesté sa gloire de plusieurs façons, par des signes visibles, réels. Rappelez-vous de l'histoire de Moïse. Je ne sais pas si vous avez vu le film « Les 10 commandements ». Quand Moïse arrive avec le peuple devant la mer qui était devant lui, le peuple égyptien courait après eux autres, puis eux autres étaient devant la mer. Puis Moïse, dans le film, moi j'ai toujours trouvé ça impressionnant, il dit « Regardez la puissance de Dieu ». Moïse cogne l'eau. Puis là, l'eau s'est retirée comme un mur chaque bord. Puis que là, il a envoyé un vent à Dieu pour sécher le fond de cette rivière-là. Puis tout le peuple juif a passé à travers à sec au fond de cette mer-là. Ils ont traversé, puis quand les Égyptiens ont essayé de faire la même chose, la mer s'est refermée sur eux. Puis même pendant leur marche, ils essayaient de rejoindre, parce qu'eux autres, il y avait des chariots. Mais il y avait des bâtons dans les roues, puis là, ça culbutait, puis ils n'ont pas pu se rendre l'autre bord, que Dieu, ça a même dit que des gens qui ont été repropulsés à l'intérieur pour que l'eau se referme dessus. Mais moi, c'est le fait de Moïse, l'image que ça donne dans ce film-là, de voir sa foi face au Dieu Tout-Puissant. Il est arrivé dans une épreuve où il ne savait pas quoi faire. C'était au-delà de sa capacité de pouvoir faire passer le peuple. Mais il avait foi en un Dieu qui est tout puissant. Puis il a dit au peuple, regardez la puissance de Dieu. Paf! Tout s'est... Ça, là, cet effet visuel-là, extrêmement puissant, un fait qui s'est répété deux ou trois fois dans la Bible, avec d'autres endroits, dans d'autres circonstances, avec d'autres prophètes. Ou comme l'histoire de Jonas qui a passé trois jours dans un grand poisson, l'histoire de Daniel qui a été jeté dans la fosse aux lions, puis les lions ne l'ont pas dévoré. 10 minutes après qu'il sort, il rejette les soldats dans la fosse, puis ils sont tous dévorés avant même de toucher le sol, qui ont été mis en pièces par les lions. Ça démontrait comment ce que Dieu avait protégé Daniel pendant ce... Ou que ce soit les fêtes comme Élie qui a prié, puis qu'il y a une personne, un fils d'une veuve qui a ressuscité, ou que d'autres moments qu'il y a eu la multiplication de l'huile, ou mettre des miracles là, dans l'Ancien Testament. Allez lire l'Ancien Testament, vous allez en voir comme ça. Que le peuple juif sont partis avec 300 pour combattre une armée de centaines de milliers de personnes, puis ont remporté la victoire, puis Dieu a bien dit, je vais m'arranger que vous soyez juste un petit nombre, afin que vous ne dites pas que c'est vous autres même qui avez remporté la victoire, afin que ce soit évident que ce soit moi qui vous donne la victoire. Juste 300 qui vont partir en guerre, puis Dieu leur a donné la victoire. Dans d'autres moments, Dieu a juste envoyé un seul ange. L'armée étrangère, l'armée ennemie, a été anéantie au complet par un seul ange qui a passé. Ou d'autres moments, les 10 plaies d'Égypte. La Bible est pleine d'interventions miraculeuses de Dieu, des miracles où ce que Dieu a manifesté sa puissance pour démontrer qu'il était là et qu'il voulait intervenir dans la vie de ceux qui marchent par la foi. Dieu avait placé son ange aussi quand que le peuple juif a sorti d'Égypte. Dieu a dit, voici, j'envoie un ange devant toi, il parle à Moïse, pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » Comment est-ce que cet ange-là s'est manifesté? Mais dans le jour, tu voyais comme une nuée, un nuage, comme un nuage de noirceur, puis la nuit, tu le voyais comme une flamme de feu. Tant que, justement, dans l'histoire que les Égyptiens ont couru après les Juifs, ça nous dit que l'ange s'est tenu entre le peuple juif et le peuple égyptien. Un seul ange a retenu toute l'armée des Égyptiens afin de laisser la chance de tout le peuple de passer. Parce que ça prend du temps. Il y en a qui traînent de la patte. Il y a des personnes qui sont âgées. Il y a tous les enfants. Puis là, tout le monde ramassait ce qu'il avait pu ramasser comme bien. Puis il s'en allait à Kahukaha à essayer de se sauver parce que l'armée s'en venait. Dieu avait mis son ange. Il dit, ils vont vous protéger. Il va vous protéger. Puis vous allez vous rendre. Comme de fait, ça s'est accompli. Il n'y a rien qui est étonnant de la part de Dieu. Moi, ce que je trouve bon là-dedans, c'est que Dieu a révélé sa gloire, démontrant sa puissance et son intérêt envers ceux qui le craignent. Dieu, il est intéressé envers ceux qui le cherchent. Ces gens-là, comme Moïse ou tous les autres prophètes, c'est des gens qui étaient à l'écoute de Dieu. Ils voulaient savoir ce que Dieu avait à dire. Ils voulaient être au courant au milieu de l'histoire de ce qui était pour se passer. Puis ils voulaient intervenir pour travailler sur le bord de Dieu pour pouvoir faire quelque chose parmi les contemporains. Mais Dieu, il n'a pas juste des projets terrestres pour l'homme. Il est encore en train de faire quelque chose de glorieux pour ses rachetés. Ça ne sera pas encore de la petite gomme, parce que quand Dieu fait quelque chose, il met le paquet. La terre et la création de qu'on voit aujourd'hui là, sont une beauté incroyable, mais le ciel, puis le royaume qui s'en vient, il est de beaucoup supérieur. Quand Jésus demande à une personne, renonce à tout ce que tu possèdes, prends ta croix et suis-moi, il sait qu'est-ce qu'on est en train de perdre. Il sait à quoi est-ce qu'on est en train de renoncer. Mais il sait aussi qu'est-ce qu'il est capable de nous donner par la suite. Puis qu'est-ce que Dieu te demande de lâcher aujourd'hui? C'est parce qu'il y a de quoi encore de bien plus grand qui s'en vient, de bien plus beau, de bien plus extraordinaire. Comme même, quand je vais le répéter, on ne peut pas s'imaginer la grandeur, la beauté, puis la gloire de qu'est-ce qui s'en vient. La Bible parle, laissez-moi vous présenter quelques images de ça, de la beauté de la ville sainte. L'endroit où ce que nous habiterons pour l'éternité. Pas pendant des vacances de 15 jours. On va rentrer là, puis on ne sortira plus de là. Éternellement, une vie sans fin dans ce que le monde appelle le ciel. La Bible appelle ça la ville sainte. La ville de tous les saints. Tous les croyants, ceux qui croient en Jésus, qui marchent avec Jésus sur la terre. Ils font partie des rachetés, puis ils vont vivre éternellement dans un endroit que Jésus leur a préparé. Apocalypse 21:10. Il me montra en esprit, c'est Jean qui est en train de parler, il y a eu la révélation des choses à venir, puis il y a eu la révélation du monde invisible. Il est en train de dire, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Cette ville-là, la ville sainte, avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Comment est-ce qu'il y en a ici des gens qui trippent sur les bijoux? Il y en a comme une petite chaîne en or, pour moi, de l'or. Mais il y en a de l'or. C'est beau, si ça, il chaîne, puis ils mettent du brasseau pour les, tu sais, pour que ça brille, ça reluit. Quand qu'elle est ternie, ça n'a pas une grosse apparence, mais quand qu'elle est nettoyée, ou rajoute des perles, rajoute des diamants, puis pas des échantillons que tu ne vois pas à l'œil, le mazan, des grosses garnottes. Ben shiny, tu regardes ça, là, chaque espèce de pierre précieuse, comme du jaspe, ou que ce soit le saphir, l'émeraude, imaginez-les toutes les sortes de pierres, un coup bien shiny, ça reluit de couleur et de beauté et d'éclat dans le monde visible. Dans le monde parfait qui s'en vient, quand il a vu ça, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. C'était pas juste une pierre précieuse, une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Ça, ça donne dans des mots humains, des mots qui n'ont aucune connaissance. Ce gars-là, c'est un gars qui a suivi Jésus. C'est pas des gars qui ont appris toute l'histoire des pierres puis examiné toutes les pierres précieuses qui existaient dans le monde. Mais ce gars-là, quand il a vu ce qui se passait, l'apparition de la ville sainte où ce qu'on va vivre éternellement là, il a dit en ces mots qu'est-ce qu'il y avait de plus grand à prononcer. Il n'y a pas d'éclat plus brillant, plus transparent, plus clair qu'une pierre de cristal ayant la gloire de Dieu. Apocalypse 21:18, ça nous dit que la ville est entourée d'une muraille, était construite en jaspe et la ville était d'or pur. La ville est en or, les murs comme du jaspe. Demandez-moi pas à quoi ça ressemble, du jaspe, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu de ma vie. Ça nous dit, c'est Apocalypse 21:18, au verset 19, il dit « Les fondements de la muraille de la ville, ils étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. » Là, il y en a des pierres. « Les 12 portes étaient 12 perles. » Quand tu parles d'une porte, c'est pas une perle. On parle d'une porte. La perle, ça vous donne la dimension de la perle. La perle, puis elle est 12. Bon, mais là, imaginez-vous la grandeur puis l'éclat de la beauté de cette perle-là. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Dieu aime à mettre le paquet. C'est pas un plancher ciré à Sir Johnson. T'as même pas besoin de cirer l'autre bord puis ça brille, juste par l'éclat de la gloire de Dieu. C'est grandiose. Moi, je vous essaie de vous mettre le paquet dans mes mots. Puis même encore, quand vous arrivez au bord, vous allez voir ça. La mâchoire va vous débarquer et elle va tomber à terre. C'est impossible de s'imaginer si beau, si grand, si merveilleux. Puis que Dieu a préparé ça pour chacun de nous autres. C'est extraordinaire. Ça nous dit que la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. C'est Dieu qui éclaire cette ville-là, juste par la lumière qui se dégage de Dieu. Si un ange nous apparaît comme un éclair, imaginez la lumière qui se dégage de Dieu. Apocalypse 3. Non, c'est pas... Excusez, c'est encore dans le chapitre 21. Et j'entendis du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle. » En français, le tabernacle, c'est un mot compliqué. « Voici la maison. Voici l'habitation de Dieu avec les hommes. » Tu sais, des fois, il disait, « Quelle maison vous me bâtirez? » Il n'y a pas aucune maison que les humains peuvent bâtir pour contenir Dieu. Mais là, ça nous parle, « Voici la maison dans lequel Dieu va habiter avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Puis là, écoutez bien la prochaine phrase. « Il essuiera toute larme de leurs yeux. » La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ceux qui vont vivre là, il n'y a pas de moment si... J'ai aucun mot pour vous l'expliquer, essayez de vous l'imaginer, comment on va vivre éternellement dans la présence de Dieu, on va voir Dieu face à face, il va habiter avec nous. Ça nous dit, il n'y aura plus de souffrance. Vous allez avoir fini de souffrir. Vous souffrez présentement. Plus de souffrance de l'autre bord. Il n'y aura plus de larmes. Il n'y aura plus de deuil. Ça veut dire que personne ne va mourir. Plus de cris. On vit dans un contexte souvent où on élève nos enfants en criant. Mais l'autre bord, là, il n'y a plus de cris. La paix, la joie, l'amour, la gloire. C'est ça que la Bible appelle de la félicité éternelle pour les élus. Et il me dit, non. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Dieu, quand il garantit quelque chose, il n'y a pas de plus grand que lui pour contredire ce qu'il a dit. Il dit, c'est des paroles certaines. Ce que Dieu a dit là, ce que je viens de te montrer là, c'est sûr que ça va s'accomplir. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Puis celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Maintenant, je vais vous présenter Dieu d'une manière un petit peu plus personnelle. Savez-vous, j'espère que je ne vous apprends rien, mais si je vous l'apprends, ce n'est pas grave. À partir de ce moment-là, aujourd'hui, vous allez savoir ce que je vais vous dire. Jésus est Dieu. C'est la plus grande révélation qu'on n'a jamais pu avoir, que le Créateur est descendu parmi nous. Dieu, le Créateur de toutes choses, est venu en forme d'un simple homme. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. 1 Jean 5:20, ça nous dit, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, ça c'est Jésus, et qu'il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Jésus est le Dieu véritable. Si je vous demande 2 minutes de penser à Jésus, la première chose que vous allez penser, ah oui, Jésus quand il était à sa croix, parce que vous avez vu des crucifix souvent, ça vous donne comme une idée ou une pensée sur Jésus. Ou Jésus dans la crèche, quand Jésus est un petit bébé dans la crèche, on voit ça souvent. À Noël, on fait une crèche, qu'on met le bébé, l'enfant Jésus. Parce qu'en passant, le mot Noël veut dire naissance. On fête la naissance de Jésus. C'est ce qu'on est supposé de faire. Jésus, il n'est plus dans la crèche. Jésus, il n'est plus sa croix. Jésus a plus l'apparence d'un humain comme nous autres. Ça, c'était dans son temps qui était à sa terre. Jésus, il n'est plus comme ça. Si je vais vous présenter comment la Bible présente Jésus aujourd'hui, puis c'est cette image-là que vous devez penser quand vous priez Jésus, quand vous priez le Père, quand vous priez Jésus, quand vous demandez dans le nom de Jésus, imaginez-vous ce Jésus-là. Apocalypse 1, 12. C'est encore Jean qui dit, « Je me retournai pour connaître quelle était la voix de celui qui me parlait. » Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Là, c'est comme il explique la vision qu'il a vue. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche. Ça symbolise la pureté. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme de l'airain ardent. De l'airain, c'est un métal, celui qui résiste le plus à la chaleur. Lui, il dit que vu comme de l'airain ardent, ça nous dit comme s'il a été embrasé dans une grande fournaise. Imaginez un four dans une fonderie où ce que le feu brûle à plein pouvoir. Pour faire fondre les métaux, mais Jésus avait l'apparence de ses jambes comme si ça aurait été du métal en fusion, puis que le feu sort, puis les flammèches, les étincelles, pour démontrer comment ce qu'il avait été embrasé. Il avait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Tu sais, tantôt, je vous disais, c'est la gloire de Dieu. Jésus est son flambeau. C'est ça qui va éclairer la ville sainte. Mais Jésus, quand tu vois une apparition de Jésus, du Jésus de la Bible, le Jésus, pas le petit Jésus, le Jésus présenté dans la parole de Dieu qui est vivant au siècle des siècles, son visage brille comme le soleil dans sa pleine force. Partout ce qui passe, il ne cherche pas de la lumière pour voir ce qui s'en va, c'est lui qui est la lumière et puis il éclaire. Il n'y a pas de ténèbres devant lui, il n'est que lumière. Quand que Jean a vu l'apparition de Jésus, tout à l'heure je lui ai dit, qu'est-ce qui est arrivé quand un ange est apparu, les gardes ont tout tombé, mais quand il a vu Jésus, lui, c'est un disciple qui aimait Jésus. Jean, là, c'est lui qui était accouché sur le ventre de Jésus, puis qui parlait proche à Jésus. Il était déjà habitué de marcher avec Jésus, mais quand il a vu cette vision-là, il dit, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en me disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jésus, c'est lui qui a la clé de faire entrer quelqu'un dans le royaume ou de l'envoyer dans la mort éternelle. Quand que Jean a vu cette vision-là, il est tombé à terre comme mort. Si nous autres, on aurait cette vision-là, on tomberait de la même façon. La Bible nous parle un jour du retour de Jésus-Christ. Comme de même l'éclair part de l'Orient jusque dans l'Occident, de même sera l'avènement du Fils de l'homme. Puis ça nous parle aussi qu'il apparaîtra au milieu de la gloire de ses saints anges, une masse, une multitude innombrable d'anges, joint à lui, où ce qui va éclairer le ciel de sa gloire, il va revenir sur un nuage pour venir s'installer à Jérusalem terrestre, dans un temps où ce que les armées vont réinvestir Jérusalem pour en train de la détruire. Il va y avoir un rassemblement de toutes les armées, de toutes les peuplades de cette période-là, qui vont se rassembler à Jérusalem pour faire la guerre. Puis Jésus, il va éclairer le ciel de sa gloire, puis il va venir comme pour prendre sa place, pour prendre son trône, la place qui lui revient. Lorsque Jésus était sur la terre, il l'a manifesté, sa gloire. Il a manifesté qu'est-ce qu'il était. Il est venu pour manifester le Père, mais le Père se manifestait à travers lui. Il y a un verset dans Jean 2 qui nous parle, quand Jésus a fait la multiplication du vin, aux noces de Cana, il y a une phrase qui nous est dit, « C'était le premier des miracles que Jésus fit, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Le but de Jésus, c'était pas de passer inaperçu. C'était dans le but de manifester sa gloire, parce que Jésus est un être glorieux. Au nom de Jésus, présentement dans le ciel, tout genou fléchit. Juste le fait de prononcer le nom de Jésus, les genoux de toute la multitude d'anges que je vous ai nommés tombent les genoux contre terre, puis rendent la gloire à Jésus. Il y a un disciple qui est arrivé auprès de Jésus, puis il dit, Philippe, il lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il dit, les paroles que je vous dis, je vous les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Le Père faisait les œuvres à travers Jésus. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez au moins à cause de ses œuvres. Jésus, la Bible nous dit, quand il passait dans une ville, tous les malades s'approchaient de lui. Ça nous dit, tous, quelle que fût sa maladie, étaient guéris. Il guérissait toute maladie, toute infirmité. Il a chassé tous les démons qui se sont présentés devant lui. Puis il a même ressuscité des personnes qui étaient mortes. Il dit, c'est le Père qui est en train d'agir à travers moi. Après ça, quand Jésus a envoyé ses disciples, il dit, priez pour les gens, dans mon nom. Puis vous allez faire des œuvres encore plus grandes que j'ai faites, parce que l'Esprit Saint est encore présent dans le cœur des croyants, en train d'accomplir la même révélation sur la terre, de révéler le Père aux gens qui nous entourent, pour amener les gens à croire en Jésus. Ce Dieu-là, Jésus, qui a quitté son trône glorieux parce qu'il était là avant de devenir sa terre, il était servi par les millions d'anges que je vous ai nommés. Il a quitté sa gloire pour venir comme un simple homme, naître dans une crèche, vivre une vie, il faut le dire de suite, misérable, pauvre. Il n'y avait rien, même pas une place où reposer sa tête. Il a accepté son humiliation afin de ne pas donner d'obstacle à personne puis de pouvoir partager le message aux pauvres comme aux riches. Il a accepté de venir sur la terre pour venir accomplir une mission. Moi, je pense qu'il n'y en a pas d'œuvre plus glorieuse. C'est beau de mettre le paquet d'un couleur, puis d'un bruit, puis d'un vibration, puis d'un son. C'est puissant, ça manifeste la gloire de Dieu. Mais le fait que Dieu, le Créateur de toutes choses, est venu en simple homme, juste pour nous prouver comment est-ce qu'il nous aimait, on est encore des hommes pécheurs qui puaient à cause de nos péchés, de nos désobéissances envers le Père. On marchait dans la rébellion envers le Père, puis il nous a manifesté son amour, qu'est-ce qu'il a quitté ça, puis il est venu sur la terre, puis il est venu mourir pour chacun de nous. Il n'y a rien de plus glorieux que ça. C'est beau de louer Dieu parce qu'il a créé toute chose, oui, mais parce qu'il a quitté son trône pour venir nous racheter, pour venir payer la dette de nos péchés, il n'y a rien de plus glorieux que cela. Faut pas se cacher cette vérité-là. On est tous des pécheurs. La Bible nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand tu viens au monde, tu es privé en partant de tout ce que Dieu avait pour toi, sur la vie terrestre, mais aussi dans les promesses à venir. On était privés de la gloire de Dieu en continuant à se rebeller contre lui, en marchant tout croche, en l'offensant chaque jour, en marchant dans une rébellion constante, parce qu'on était animés de l'esprit de ce monde, on est venu au monde séparé de lui, puis on a produit nous-mêmes des péchés à tour de bras. Il nous aimait quand même, il a décidé de venir payer notre dette. Les gens qui sont sans Jésus sont perdus en commençant, privés de la gloire qui s'en vient. Parce que je vous le dis, ça va être glorieux qu'est-ce qui s'en vient. La Bible a dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est ce qu'il faut payer ce matin. Le don, un cadeau gratuit que Dieu veut vous donner à chacun de vous, c'est la vie éternelle en son Fils Jésus. Vive éternellement dans la ville sainte, où ce qu'on va voir Dieu face à face, où ce qu'on va vivre une histoire sans fin avec lui. Dieu nous a créés pour qu'on vive à ses côtés. Il savait qu'on tomberait dans le péché. Il avait déjà préparé avant la fondation du monde, préparé que l'histoire se déroulerait ainsi. Il avait vu ça d'avance. Il avait déjà préparé le moyen de racheter l'humanité. Il avait déjà préparé qu'il enverrait son Fils Jésus mourir sa croix pour nous racheter, afin de rassembler avec lui, à travers Jésus, tous les rachetés, les élus qui vivraient éternellement dans sa présence à ses côtés. La Bible nous dit qu'on a été sauvés afin que nous célébrions la gloire de sa grâce. On a été sauvés, on a été mis comme... l'esprit nous a été ouvert pour qu'on puisse voir que Jésus était le Messie. On a ouvert notre cœur, le laissé rentrer, puis on dit, « Oui, Seigneur, je le prends avec tout ce que tu as à me donner, puis je veux marcher avec toi. » Il dit, on était sauvés, en retrouvant notre communion avec le Seigneur, là, sauvés afin qu'on célèbre sa gloire. Ça, c'est écrit dans Éphésiens 1, 4 à 6. Qu'est-ce qu'on faisait ce matin en train de louer le Seigneur? C'est le peuple racheté, rassemblé, en train de célébrer Dieu, chanter les louanges à Dieu, afin de célébrer la gloire de Dieu, célébrer le fait qu'il nous a sauvés. Pendant que les musiciens s'avancent. Je sais qu'il y en a des gens ici dans ce lieu qui n'ont pas encore pris la décision de laisser rentrer Jésus dans votre vie. Ce que je vous dis là, c'est, je pense que c'est le moment le plus important de toute votre vie. Vous êtes face à la réalité la plus réelle de la vie. C'est beau qu'on doit se lever, travailler, manger, dormir, puis se relever. Mais la vie, il y a beaucoup plus que juste la routine qu'on est habitué. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu veut rentrer dans ta vie. Dieu veut marcher avec toi, ici. Il veut pardonner tes péchés, puis il veut te donner gratuitement le cadeau de la vie éternelle. C'est pas parce que tu es une bonne personne, c'est pas parce que tu es meilleur que les autres, c'est pas parce que... C'est tout simplement parce qu'il t'aime, puis il veut te donner cette chance-là aujourd'hui de faire la paix avec lui, puis de le laisser rentrer dans ta vie, afin que ta vie soit... Premièrement, que tu sois pardonné de tous tes péchés, parce qu'il a payé ta dette de tes péchés. Son sang a été versé afin que tu puisses être purifié. Il veut premièrement pardonner tes péchés, mais il veut aussi entrer dans ta vie en te donnant le Saint-Esprit qui va rentrer dans ta vie, puis tu ne seras plus la même personne. Tu vas marcher en nouveauté de vie. Tu vas être une nouvelle création, une nouvelle créature, un être ressuscité. Déjà, tu vas avoir l'assurance, tu vas avoir une pleine confiance que tu fais partie des élus, puis qu'un jour, tu vas être avec lui dans sa présence. S'il y a des gens comme ça ici, qui n'ont pas encore consciemment pris la décision, qui veulent donner leur vie au Seigneur, pendant que les musiciens vont chanter le prochain chant, avancez-vous. Pas à cause que vous avancez devant moi ou devant d'autres, pensez que vous êtes devant Jésus, le Jésus glorieux, où ce que le soleil brille dans sa force, le visage qui brille comme le soleil dans sa force. Ce Jésus-là, grandiose et tout-puissant, parce qu'il a dit « tout pouvoir m'a été remis », il a encore tout pouvoir. Vous pouvez vous approcher de lui maintenant, puis de le laisser rentrer dans votre vie. Puis repartir d'ici, transformé, parce que Jésus va être avec vous pour la suite de vos jours. Pendant que les musiciens vont chanter, avancez-vous en avant. Laissez pas passer cette chance-là. Donnez votre vie au Seigneur. Qu'est-ce qui vous reste comme temps à vivre? On ne sait pas. 6 minutes, 6 jours, 6 mois, 6 ans, on ne sait pas. Mais vivez le restant de votre vie pour Jésus. Abandonnez les choses terrestres, ce qui vous attire, afin de recevoir ce qui vous attend. Ta vie est comme une scène. Tu dis, Seigneur, je te donne ma scène. Puis le Seigneur, il y a un compte en banque infini qui te remet par la suite. Chaque jour de notre vie, c'est comme une scène, mais l'éternité, c'est un trésor sans fin.